Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Julie est la maman de deux petits garçons, dont Léo, son premier bébé, qui est parti rejoindre les étoiles beaucoup trop tôt. Après une première grossesse et un accouchement qui se passe bien, la vie à trois se construit paisiblement. L'heure de la reprise professionnelle a sonné, et après avoir essuyé plusieurs refus de la crèche, Léo est finalement confié à une assistante maternelle recommandée. Quelques semaines se passent jusqu'au jour où Léo est retrouvé inanimé dans son lit, victime de la mort inattendue du nourrisson. Julie va alors recevoir le coup de téléphone qui bouleversera à jamais sa maternité et la fera entrer dans un long processus judiciaire. Car c'est chez l'assistante maternelle que Léo a rendu son dernier souffle. Dans cet épisode, Julie nous raconte cette journée qui a tout fait basculer. Elle nous explique ce qu'est la mort inattendue du nourrisson et comment l'éviter. Elle nous parle de ce qui lui a donné la force de continuer sa vie sans Léo à ses côtés, mais à jamais dans son cœur, et de l'arrivée de son deuxième petit garçon. Bonne écoute. Bonjour Julie, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour, avec plaisir.
Tu es la maman de deux petits garçons, Léo qui s'est envolé, qui est maintenant ta petite étoile, et un deuxième petit garçon qui a quel âge ?
Qui vient d'avoir 8 mois.
D'accord. Alors on va repartir au début de ta maternité. Est-ce que pour toi, devenir maman, c'était quelque chose que tu voulais depuis toujours ? Est-ce que tu y avais déjà réfléchi depuis très longtemps ou c'est arrivé un petit peu comme ça, par hasard ?
Alors oui, je pense que j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours eu ça en moi. Je pense que, bah, comme tout le monde, j'attendais aussi le bon partenaire pour vraiment avoir le déclic et me lancer. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Charles, on en a parlé assez rapidement et parce que voilà, on se sentait bien ensemble, on savait qu'on allait faire un beau parcours ensemble et donc on s'est lancé quasiment ouais un an et demi après notre rencontre. Donc voilà, à ce moment j'étais sûre et certaine.
Et alors comment s'est passée cette première grossesse ?
Alors la première grossesse pour Léo, c'est très bien passé globalement. C'est vrai que c'était ce que j'appelle une grossesse précieuse, comme toutes les grossesses certes, mais parce que Léo était issu d'une FIV, on a fait une PMA pour avoir Léo. Donc c'est vrai que bon bah j'étais en apnée les 3 premiers mois comme beaucoup de mamans et à certains moments aussi du reste de la grossesse, sachant que j'ai fait quand même quelques allers-retours aux urgences, donc des petits moments un peu stressants. J'avais toujours cette petite voix dans la tête qui me disait « ça se trouve, ça sera mon seul bébé, si jamais les soucis de liés à la PMA, notre parcours PMA doivent s'aggraver ou autre ». Donc parfois un peu stressante, mais globalement j'étais assez apaisée, je dois dire, parce que ce bébé il me portait et puis je savais que voilà que ça allait bien se passer malgré les petits stress que l'on peut tout avoir lors d'une grossesse.
Est-ce que vous aviez mis combien de temps pour la PMA ?
Alors pour la PMA, pour le coup, c'était une PMA assez rapide. On a mis à peu près un peu moins de 2 ans parce qu'on a commencé par des inséminations artificielles et on est passé rapidement à la FIV et c'est la première FIV qui a marché. Donc un parcours PMA lourd effectivement parce que c'était un protocole expérimental. Donc j'avais un peu plus de piqûres et de traitements justement pour éviter des surstimulations ou des conséquences qu'on peut avoir avec les traitements lourds. Mais d'un côté, bah, ça a marché du premier coup. Donc c'était lourd au quotidien, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Il y a des parcours de PMA qui sont beaucoup plus longs et compliqués. Donc ouais, un peu moins de 2 ans.
Et alors, quand tu étais enceinte, est-ce que tu étais plutôt du genre à t'informer sur un petit peu tout, ou au contraire, te laisser un peu porter au feeling sur la maternité?
Alors en fait, je me renseignais beaucoup, mais pas forcément lié à du stress ou voilà, je n'étais pas non plus H24 sur mon téléphone comme beaucoup. Je pense que je tapais voilà dès que j'avais des petites questions sur Internet, mais c'était vraiment parce que je réalisais à quel point ça me passionnait quoi. C'était génial cette petite vie qui grandissait en moi. J'avais des interrogations, mais qui étaient beaucoup aussi de la curiosité. Parce que je trouvais ça absolument génial et que on en parle beaucoup, on se fait beaucoup de films là-dessus, mais vraiment quand on le vit, c'est autre chose. Et j'avais envie de tout savoir, de tout apprendre, que ce soit enceinte ou en tant que maman, c'est valable aussi.
Et alors, ton accouchement s'est bien passé ?
L'accouchement s'est bien passé, ça a duré un peu, à peu près 16 heures. 16-17 heures de contraction, donc ouais, c'est un peu long vers la fin, mais c'est vraiment un souvenir génial parce qu'avec Charles, on a vécu ce moment vraiment à deux. Il était vraiment complémentaire ce jour-là. Je pense qu'il a vécu la journée de la même manière que moi, avec son regard de père, mais de la même manière que moi. Et on a bien rigolé, vraiment. J'ai un souvenir, on a bien rigolé, on écoutait de la musique. Enfin, on faisait notre petite vie de couple habituelle les dernières heures, j'ai envie de dire, avant d'être trois. Mais ponctué de douleurs et de contractions, bien évidemment. C'est vrai que quand j'ai eu moi j'avais demandé une péridurale. Quand je l'ai eu, effectivement, j'étais à deux doigts de prendre l'anesthésiste dans mes bras parce que je commençais un peu à en avoir marre, même si ça fait partie du lot. Et puis après, l'accouchement en lui-même s'est très très bien passé, à peine 30 minutes, avec une équipe au top. Pour Léo, j'étais dans un hôpital de la région parisienne. Avec Loane, j'ai testé une clinique en province. Et voilà, on a été très bien entourés. Vraiment, enfin tout s'est très très bien passé. Léo est arrivé. J'ai trouvé ça assez rapide pour le coup, comparé aux 16-17 heures de douleur d'avant. Et voilà, il est arrivé en toute fin de journée, parfaitement.
Ton séjour à la maternité s'est bien passé ? Est-ce que tu as allaité Léo ?
Alors j'ai souhaité allaiter. C'est vrai que pour ce premier bébé, c'était pas non plus une condition absolument à remplir. Je m'étais dit si ça se passe bien, et bah tant mieux. Et puis sinon, j'essaierai du moins de pas mal le vivre. Effectivement, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Avec du recul, j'impute ça à plusieurs raisons. Je pense que déjà, quand il est né, pour le coup, mon placenta est pas sorti tout de suite, donc j'ai pas pu faire de peau à peau avec lui. Il a été sorti de la pièce avec Charles pour que voilà, on puisse me retirer le placenta. Et en fait, je l'ai récupéré après, mais comme c'était pendant la nuit, j'ai pas pu bien avoir ces moments avec lui. Et c'est vrai que j'ai pas insisté, j'ai pas forcément demandé aux équipes d'insister. Et j'étais pour le coup un peu stressée qu'il ait pas toute la quantité suffisante de lait, donc je suis rapidement passée au biberon. Mais voilà, je pense que j'avais, pour Loane, j'ai allaité, j'avais besoin un peu entre guillemets cette revanche. Mais vraiment sur le coup avec Léo, j'en ai pas fait une formalité. Moi, l'important c'était qu'il se nourrisse bien, et je voyais bien que lui avait pas forcément le bon réflexe. Moi, je voulais pas m'acharner non plus, donc voilà, je suis passée au biberon, je pense, à J1, J2.
Et le retour à la maison, alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Eh ben carrément. On est rentré à la maison, on était trop contents. Ouais, enfin, j'avais l'impression que c'est comme si on avait été parents au fond de nous depuis toujours. Voilà, fallait que ça se concrétise. Mais le retour à la maison, j'ai cette image de notre appartement quand on était en région parisienne, comme si c'était une bulle. C'était en plein hiver, mais il y avait la lumière de partout. Enfin, vraiment, on était sur notre petit nuage. J'étais un peu tristoune quand Charles a dû reprendre le travail. À cette époque-là, c'était donc encore les bons jours. Et c'est terriblement court, comme on le sait tous. Mais vraiment, sinon, ça s'est très bien passé. On s'est bien acclimaté tous les trois. On a vraiment privilégié des moments tous les trois, même si on recevait famille et amis. Mais ouais, c'était comme si on était fait pour être tous les trois à ce moment-là de notre vie, à cet endroit-là. Enfin, c'était tout rose, quoi.
Et donc, toi aussi, t'as dû reprendre le travail un petit peu plus tard?
Alors j'ai repris mon travail dès la fin du congé maternité. Effectivement, j'ai pas prolongé. J'avais vraiment à cœur d'avoir cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui je l'ai toujours, mais autrement. Et donc oui, j'ai repris le travail assez rapidement. Avec du recul, je me dis mais à quel point Léo était tout petit. Là, Loane, ça fait un an que je suis avec lui, donc effectivement, c'est différent et je me rends compte à quel point, voilà, les premiers instants, c'est magique, c'est important et on les revit pas. Donc, je regrette pas parce que j'essaye de pas avoir trop de regrets dans la vie. Et à ce moment-là, je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie de le faire comme ça. C'était comme ça que je voyais ma vie. À ce moment-là, mais c'est vrai que pour Loane et pour d'autres enfants, je ferais différemment.
Tu faisais quoi comme métier ?
Alors j'étais responsable régionale pour une marque dans le textile et je m'occupais donc de toutes les boutiques parisiennes et de quelques-unes en province. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de déplacements. En fait, au début, j'avais des boutiques en province. Donc vraiment, j'étais en déplacement quasiment tous les jours de la semaine. Et quand je suis tombée enceinte, mon partenaire, mon binôme, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, m'a proposé d'inverser de région. Donc j'ai récupéré ses boutiques sur Paris et lui a récupéré la province. Comme ça me permettait tous les soirs de pouvoir aller récupérer Léo chez l'assistante maternelle et de pouvoir être quand même le maximum de temps avec lui tout en continuant d'exercer mon métier que j'aimais beaucoup et dont je suis quand même très très fière aujourd'hui.
Et alors justement, le système de garde, est-ce que ça a été un vrai questionnement pour toi? Comment ça s'est organisé?
Alors c'est vrai que nous, tout de suite avec Charles, on voulait absolument avoir une place en crèche. On avait un peu de mal avec le fait de laisser notre enfant chez une inconnue. Alors en crèche, bien évidemment, c'est des inconnus aussi, mais elles sont plusieurs. C'est quand même dans une structure externe. Là, c'était vraiment au domicile. Donc bon, c'est notre priorité aurait été la crèche. On s'est fait refuser deux fois la place. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à connaître ce souci sur Paris et la région parisienne. Donc on a rencontré des assistantes maternelles dans notre ville. Après, c'est vrai que déjà on n'avait pas le choix. Il fallait bien trouver un mode de garde pour Léo. On a rencontré plusieurs et puis on s'est dit que c'était quand même cadré, que les assistantes maternelles, elles étaient quand même surveillées par la PMI, donc on s'est pas mal renseigné et puis bon, on a pris cette voie parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis on a essayé de trouver aussi des choses positives à ça. On a essayé de trouver une assistante maternelle qui avait quand même de l'expérience, qui avait quand même quelques autres enfants avec elle pour qu'il y ait quand même une diversité autour de Léo. Bon, on a essayé de trouver un juste milieu, mais c'était vraiment pas notre choix premier.
Et alors, comment ça s'est passé chez l'assistante maternelle ?
Alors, nous, on l'avait choisie, elle, parce que elle avait beaucoup d'expérience et qu'il y avait d'autres enfants, comme je te l'expliquais. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on était contents, on était satisfaits parce qu'elle avait ce lien quand même avec les enfants. Elle a pris Léo instinctivement dans les bras, alors que c'est vrai que les autres entretiens qu'on avait fait, les personnes n'avaient pas forcément pris Léo ou en tout cas eu un geste envers lui. Moi, j'avais demandé à faire une adaptation quand même assez longue et assez vraiment petit à petit. Donc ça a commencé par 30 minutes où je suis partie, j'ai laissé Léo. Enfin, j'étais venue d'abord j'étais venue d'abord une journée ou une demi-journée, je sais plus, avec Léo. Après je l'avais laissé 30 minutes, puis vraiment on a espacé les jours et on a grandi le temps pendant quasiment un mois. J'avais vraiment besoin de ça parce que pour faire confiance et puis bah, parce que voilà, laisser son enfant c'est pas évident. C'est je pense que c'est un des premiers caps quand on devient maman, quand on devient parent. Et ce cap là, j'avais pas envie de me louper parce que j'avais pas envie de regretter mon choix et puis j'avais, comme je te disais, envie de garder cet équilibre entre vie pro et vie perso. Et donc voilà, j'avais fait un planning assez conséquent, mais qui était primordial pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai repris le travail, bah, j'étais quand même en confiance parce qu'on avait fait ça bien, que Charles avait rencontré aussi, et que on y était allé petit à petit. On n'avait rien brusqué, donc j'étais en confiance.
Et alors, ça a duré combien de mois chez cette assistante ?
Eh bien. Léo, on lui a confié fin février, début mars. Donc, ouais, ça fait même pas un mois. Il a même pas fait un mois chez elle. Jusqu'à malheureusement ce jour voilà, où on a appris l'innommable.
Qu'est-ce qui s'est passé
Alors, en fait, moi, dans un premier temps, c'est Charles qui m'a appelé parce que l'assistante maternelle avait essayé de me joindre et j'avais pas, je sais pas pourquoi, j'avais pas reçu son appel. Donc j'ai eu Charles et qui me demandait de venir urgemment chez elle. Chose que bien évidemment j'ai faite. Je savais très bien que c'était dramatique. Comme je le dis souvent, quand son bébé s'est fait du mal ou s'est cogné, ben on nous le dit. Et là, en fait, personne ne me disait rien. Donc, j'imaginais malheureusement quelque chose de tragique. Sur l'instant, on nous disait qu'il avait fait un arrêt respiratoire et qu'il était en massage cardiaque. Donc, moi, c'est la seule info que j'ai eue pendant tout le trajet de mon travail jusqu'à chez l'assistante maternelle.
Parce que là, t'avais eu qui en ligne ?
J'avais eu Charles, qui lui est arrivé un peu plus tôt et qui avait eu les premières informations des pompiers et des secours sur place. J'ai su après, parce qu'il avait voulu me protéger sur l'instant, mais j'ai su après que bon bah lui avait eu toutes les informations et en plus il avait vu cette image très choquante de Léo en train de se faire réanimer. Donc il a voulu me préserver parce que j'étais toute seule dans ce taxi pour venir jusqu'à eux. Et en fait, on a su après l'autopsie, après les examens, que Léo avait été plongé dans un confinement, ce qu'on appelle un confinement respiratoire, parce qu'il avait été laissé sans surveillance et notamment sur le ventre. Donc, il s'est endormi sur le ventre après son repas du midi. Et donc sur un matelas qui n'était pas adapté au couchage, dans des conditions de couchage qui n'étaient absolument pas sécuritaires. Et donc, ça l'a placé dans un confinement respiratoire qui a été malheureusement fatal pour lui.
Et alors, toi, quand tu arrives sur place, qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, quand j'arrive sur place, déjà, je suis absolument en furie. Je me rappelle même avoir carrément dégagé un policier parce que, en fait, je voulais pas qu'on me touche. Les gens, c'est vrai, avaient ce réflexe un peu protecteur de vouloir me prendre par l'épaule pour mettre sur le côté, etc. Et moi, j'ai absolument dégagé tout le monde, littéralement. Donc, on nous a mis à part dans la loge de la gardienne avec Charles. C'est vrai je m'en souviens maintenant, sur le coup c'était flou, mais il y avait beaucoup de gens, un peu comme des scènes du quotidien, dans la rue, on voit ce genre de choses, les gens ils s'arrêtent, ils regardent, donc il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de camions, de policiers, de pompiers, du SAMU pédiatrique, et donc on nous a mis à l'écart pour être évidemment pas de devant tous ces gens. Et en fait, il y a la médecin du SAMU qui est arrivée et je crois que je lui ai coupé la parole et je lui ai dit tout de suite de me dire les choses et pas de passer par quatre chemins, je voulais pas qu'il y ait une seule once d'espoir s'il y en avait pas. Vivre pendant quelques secondes en me disant que peut-être que Léo il va survivre alors qu'au final tout le monde sait que non, moi je voulais absolument pas passer par là. Donc elle nous a dit qu'il était en arrêt respiratoire mais que c'était trop tard et que Je crois qu'ils nous ont demandé, enfin, notre accord pour le débrancher, même si bon, bah, il n'y avait pas d'autre issue, mais parce qu'on était ses parents, quoi. Et donc, là, on s'est écroulé, enfin, littéralement, on s'est écroulé tous les deux. Là, il y a vraiment le, enfin, il n'y a plus rien, quoi. C'est un blackout total. Il y a tout qui s'écroule autour de nous. On ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus qui on est. On ne sait même plus si on parle, si on ne parle pas, si on crie, si on ne crie pas, on ne sait plus rien, quoi. Et après, on nous a demandé si on voulait aller le voir. Bien évidemment, on y allait. Je me souviens que j'ai demandé tout de suite si les autres enfants étaient ailleurs dans une autre pièce, parce que je savais que j'allais pleurer, que j'allais m'écrouler, que j'allais crier encore, etc. Et que je voulais pas qu'ils soient là. Je pense que oui, peut-être d'un côté altruiste de vouloir pas qu'ils voient ça, mais parce que moi, j'avais envie, je pense inconsciemment, à ce moment-là, de pouvoir libérer toutes mes émotions, et je voulais pas qu'il y ait des obstacles entre guillemets à ça. Donc bon, c'était un peu pour penser à eux, mais c'était aussi pour penser à nous. Et donc on allait le voir, on allait le retrouver. Il était dans le salon de l'assistante maternelle. Il était allongé au sol, et donc on s'est jeté à ses côtés. Enfin, c'était une scène absolument horrible. Enfin, rien que d'en reparler, c'est dur, mais ça fait du bien. Pardon. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait. Donc c'est peut-être bête, mais je me suis dit qu'il fallait que je gère, parce que on était tous les deux retournés. Mais en fait, Charles, je l'avais tellement jamais vu. Enfin, c'est vrai qu'il est assez fort, et là, il était dans un état absolument indescriptible, et je me suis dit qu'il fallait que je gère. Il fallait que je gère pour deux, et que lui, il prendrait le relais.
Et là, à ce moment-là, vous savez absolument pas encore ce qui s'est passé ?
Non, 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 c'est rien du tout. J'y suis après qu'elle était dans une autre pièce avec la capitaine de police. Moi, c'est vrai que j'étais déjà assez un peu stressée par rapport à la mort subite du nourrisson. Donc, dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait que c'était ça.
Et, ah oui?
Ouais, parce que un petit bébé aussi jeune, c'est quand même malheureusement souvent ce genre d'explication. Donc, moi, je pensais mort subite parce que j'avais pas encore toutes ces connaissances par rapport à ce qui est une mort inattendue, une mort subite, etc. Et puis je pense qu'au fond de moi, c'est ce que j'espérais. Je l'avais dit à quelques jours après, je me rappelle à Charles, à mes frères et à mes parents, je leur disais, mais c'est horrible, mais j'espère que c'est ça. Et en fait, qu'il n'y a pas d'autre explication, parce que je ne me voyais pas être dans une situation où il fallait que je gère le deuil de mon fils et que je gère le fait que quelqu'un soit responsable de la mort de mon fils. Pour moi, c'était inconcevable, c'était trop dur en fait de gérer tout ça en même temps. Donc c'est horrible, mais... c'est un peu ce que j'espérais. Je me disais, j'espère que Léo, il s'est endormi paisiblement, qu'il s'est rendu compte de rien, que c'est son petit cœur qui a lâché, et c'est horrible, mais moi, j'avais besoin de cette explication-là, et voilà, je suis passée par plein d'étapes. On voulait être sûr que ça soit pas, par exemple, un bébé secoué ou quelque chose d'intentionnel, etc. Et bon, enfin, de toute façon, il n'y a aucune explication qui est valable et qui peut nous aider à aller mieux, mais moi je pensais un peu à ça, et ça nous a été confirmé plus tard avec l'autopsie, les examens, et bien plus tard quand on a eu connaissance de l'audition de l'assistante maternelle, et que malheureusement c'était pas une mort subite en tant que telle, parce qu'une mort subite... Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'explication après tous les examens et l'autopsie. C'est dur, mais c'est inexpliqué. Et pour Léo, c'était une mort inattendue. Une mort inattendue, pour le coup, elle est expliquée. Et c'est majoritairement dû aux conditions de couchage qui n'étaient pas respectées. Donc là, je me suis vraiment retrouvée dans la situation, entre guillemets, que je voulais pas, même si, comme je te disais, il n'y a pas de situation bien dans ce genre de drame, mais où je me suis retrouvée avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable du décès de mon fils, puisque les conditions de couchage n'ont pas été respectées, et que même si les morts inattendues... on va dire, sont plurifactorielles. C'est bien pour ça qu'il faut faire attention aux conditions de couchage, parce qu'on ne sait jamais si un bébé commence un rhume, si un bébé il a une petite pathologie qu'on n'a pas décelée à la naissance, etc. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut faire attention aux conditions de couchage. Et je me suis rappelé notre rendez-vous, notre entretien qu'on a fait avec cette assistante maternelle où je lui avais dit dans mes conditions non négociables, il y avait ne pas coucher Léo sur le ventre. Donc j'ai très rapidement demandé comment Léo avait été retrouvé. Parce que c'est vrai que pendant la journée, comme chez nous, on lui avait demandé si elle pouvait bien sûr faire de la motricité et aussi sous surveillance le coucher de temps en temps un peu sur le côté parce qu'il avait une plagiocéphalie. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres moyens de travailler la plagio, mais à l'époque, c'est les seules informations que j'avais. Donc, on avait bien insisté sur, sous surveillance. Et donc, j'avais demandé si Léo avait été retrouvé sur le côté, parce que je pense que je m'en serais voulu énormément, beaucoup plus. Et en fait, on a su qu'il avait été retrouvé sur le ventre et qu'il y avait d'autres conditions qui n'avaient pas été respectées. Donc, on s'est vraiment retrouvé dans le cas de figure où on devait affronter le deuil, la mort de notre fils, et aussi le fait qu'une personne en soit responsable. Et c'est absolument impossible à gérer, en tout cas les premiers instants. C'est très dur. Moi, pour moi, je savais, enfin, pas du tout comment gérer ça, le fait d'en vouloir à ce point-là à quelqu'un.
Et alors là, vous restez combien de temps sur place? Qu'est-ce qui se passe une fois que justement vous retrouvez Léo, vous lâchez toutes les émotions?
Eh ben, on a rapidement demandé à sortir de cette pièce parce que c'était la pièce où Léo est mort, donc on voulait partir. On voulait aussi être très loin de l'assistante maternelle parce que je pense que c'était absolument pas le moment de se confronter. Et puis donc on est allé dans l'ambulance pédiatrique. Le personnel de santé nous a laissé tous les trois. Et puis après on a demandé à prendre l'air, Charles et moi. Donc moi je suis allée chercher une ambulancière pour lui demander de rester avec Léo. Je voulais pas qu'il soit tout seul. Et là en fait, Charles a appelé sa maman. Il avait perdu son papa quelques mois avant, donc il n'avait que sa maman à appeler. Et sa sœur, et moi en fait je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi d'appeler mes parents. Depuis toujours, mes parents je les appelais pour des bonnes nouvelles ou en tout cas des choses qui sont franchement pas graves, et là je voyais pas du tout comment les appeler, leur dire ça. Enfin, donc je suis passée par l'un de mes frères, celui qui habitait juste à côté de chez eux, et donc je l'ai appelé lui en premier, pour lui dire que l'information que j'avais à ce moment-là, que Léo avait fait un arrêt cardiaque et qu'il était décédé, et qu'il fallait qu'il aille voir nos parents pour leur annoncer, et puis pour qu'ils viennent ensemble nous rejoindre. À ce moment-là, on avait vraiment besoin d'être entouré de notre famille. Donc j'ai appelé aussi mon grand frère qui habite dans l'Isère. Donc tout le monde nous a rejoint à l'hôpital. Il y a aussi la cousine de Charles qui nous a rejoint. Enfin voilà, on était en petit comité, mais on avait besoin d'eux. Et donc on a fait le trajet en ambulance, toujours avec Léo. C'est Charles qui l'avait dans les bras. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ça sera toujours, c'est toujours un traumatisme de voir des ambulances, en tout cas quand elles sont en action avec les sirènes, etc. Parce que c'est vraiment dans ce trajet en fait qui m'a semblé une éternité, peut-être même encore plus long que le trajet que j'avais fait en taxi pour retrouver Léo et Charles, parce qu'en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit mais c'est quoi la suite, quoi, enfin c'est quoi la suite d'une vie quand notre jeune parent perd son bébé, quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce que nos familles vont s'en sortir? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on se relève de ça? Et puis c'est quoi la suite? Enfin, vraiment maintenant, dans les prochaines minutes, quoi. Parce qu'on arrivait à l'hôpital, on était donc dans un centre de, pardon, dans un service de réanimation néonatale. Donc moi, j'ai rappelé ma famille en leur disant, enfin, c'est horrible, mais en leur disant, c'est un service de réanimation, mais enfin, en gros, il y a plus de chance de réanimer. Léo, quoi. Encore une fois, que les choses soient claires, qu'il y ait de l'espoir pour personne. Enfin, je veux dire, le pire est arrivé. Et je pense qu'il faut pas une seule seconde d'espoir à personne. Et donc après, on nous a mis dans une pièce. Je sais pas combien de temps on y est resté, mais jusqu'à dans la nuit, parce que quand on est reparti de l'hôpital, il faisait nuit. Et tout le monde nous a rejoint petit à petit. Et c'est vrai que j'ai l'impression que personne parlait parce qu'il n'y avait absolument rien à dire. Donc on se faisait des câlins, on se tenait la main, on pleurait tour à tour. Moi, à un moment, je suis allée carrément vomir aux toilettes. Enfin, c'est, je pense qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et heureusement, on a été tout de suite reçus par les équipes, le docteur référent de ce service et la psychologue, pour commencer à nous donner des clés et des axes d'action. Parce que c'est vrai que, nous, voilà, on ne savait pas quoi faire. On était dans un trou noir, quoi.
Et j'imagine qu'il a fallu du coup aussi penser aux funérailles, ou alors il fallait attendre déjà que les médecins vous disent c'est terminé, ou vous étiez encore dans un entre-deux ?
Non, en fait, le décès de Léo, il a été prononcé chez l'assistante maternelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu les choses au clair avec tout le monde pour pas qu'il y ait une once d'espoir. Oui, on a pensé forcément très vite aux funérailles, mais dans un premier temps, on nous a fait part du fait qu'il allait avoir une autopsie. On nous a pas demandé notre accord. Généralement, on demande l'accord des parents. Là, comme il y avait déjà la dimension judiciaire, nous, on savait pas encore qu'il y avait cette dimension judiciaire qui avait déjà été mise en place. Mais j'aurais pu m'en douter vu qu'il y avait aussi des camions de police sur place. Mais sur le coup, j'avais cru comprendre que dans la région parisienne, à chaque fois qu'il y avait le décès d'un enfant qui n'arrivait pas au domicile des parents, il y avait la police. Et donc, bon, je m'étais pas formalisée plus que ça. Mais donc il y a eu une autopsie et il a fallu attendre la fin de l'autopsie pour pouvoir récupérer Léo, réfléchir à où mettre Léo, parce que ça fait partie des choses auxquelles on doit réfléchir, et c'est là où on est quand même parents, parce qu'on a toujours des décisions à prendre. Et donc on a décidé de l'enterrer, de faire les funérailles dans ma ville de naissance, en Normandie. Parce que le cimetière est juste à côté de chez mes parents, parce qu'on savait déjà qu'on allait déménager dans le coin. On avait le projet avec Charles depuis quelques temps. On pensait pas que ça allait arriver aussi vite, mais c'est vrai que on s'est tout de suite dit on va déménager très vite. On se voyait pas rester encore très longtemps dans notre appartement. Donc on a choisi de l'enterrer dans le cimetière où ma grand-mère maternelle, que j'aime de tout mon cœur, et repose aussi. Donc on s'est dit qu'il allait être en bonne compagnie, et on l'a enterré une semaine, un jour après son décès. Et c'est vrai que pour le coup, enfin c'est horrible à dire, mais ça m'a fait tenir. Comme beaucoup de personnes, après un décès, ce qui nous fait tenir, c'est les démarches qui après, elles sont hyper lourdes, et des fois on est vraiment tout seul, surtout dans tout ce qui est funéraire et démarches pas forcément sympas. Mais moi, pour le coup, ça me faisait tenir parce que ça me faisait faire des choses pour Léo. Et moi, lui rendre hommage de la plus belle des manières qui soit, ça me tenait à cœur. Donc là, je me suis mis un peu en mode robot parce qu'il fallait que tout soit parfait à son image pour lui, qu'on allait lui dire au revoir, entre guillemets, devant tous les gens qu'une seule fois. Et moi, je voulais pas avoir un seul regret. Donc là, j'étais un peu en mode pilote automatique. Et c'est vrai qu'organiser tout ça, ça m'a un peu... ça m'a permis de tenir et de rester debout.
Et justement, tu disais que vous étiez resté un petit peu dans l'appartement. Est-ce que, du coup, après quelques heures, tu dois rentrer chez toi ? Comment ça se passe pour toi à ce moment-là ?
Alors en fait, quand on est parti de l'hôpital... On a décidé de retourner chercher quelques affaires et de dormir à l'hôtel, parce que c'était impossible de dormir dans l'appartement. On a retrouvé mon grand frère qui est en bas de l'immeuble, qui est arrivé donc 10h, qui avait sauté dans le premier TGV. Et puis on est monté avec Charles que tous les deux. On a toujours eu à cœur d'affronter toutes ces choses en premier lieu tous les deux. Premièrement parce que c'est dur, et deuxièmement parce que on voulait faire tout ça en tant que parents. Donc au même titre, à l'hôpital, on a refusé que Léo soit visité, décédé, j'entends, par d'autres personnes que nous, encore une fois parce que c'est des images qui sont quand même choquantes, et puis parce que nous, on voulait garder ces moments-là pour nous trois. Et quand on est rentré dans l'appartement, il y avait un peu toujours cette symbolique de toujours rester nous trois, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on est rentré dans l'appartement qui était resté dans l'état dans lequel on l'avait quitté le matin, donc un appartement d'un jeune couple avec un bébé en bas âge. Donc c'est vrai que c'était la troisième fois où je me suis effondrée littéralement au sol dans la chambre de Léo. Et là, c'est Charles qui m'a relevée. Comme quoi, je savais que chacun allait prendre le rôle pour deux, pour soulever l'autre. Et en fait, on a pris quelques affaires qu'on a mis dans une valise, où on a mis absolument, enfin, des choses complètement au hasard. Moi, je sais juste que je voulais absolument avoir la couverture que Léo avait en journée. Et on a pris chacun un de ses doudous et on est parti. Et le lendemain, c'est une partie de nos familles qui est venue dans l'appartement pour ranger un peu cette vie de bébé. Pas pour cacher, parce qu'on n'a jamais voulu cacher ou mettre un mouchoir sur tout ça, si je puis dire, mais pour au moins, enfin voilà, laver les biberons qui étaient par exemple en cours, laver le petit pot avec la dernière purée, enfin voilà, pour pouvoir nous permettre un jour de revenir dans l'appartement. Et je sais plus trop combien de temps on y retourne après, je dirais un petit mois.
Vous êtes resté à l'hôtel tout seul?
Non, on est resté à l'hôtel une nuit, et après c'est mon frère en Normandie qui nous a accueillis, et qui nous a accueillis à plusieurs reprises, puisqu'on y allait juste après donc le décès de Léo. On est retourné un peu dans notre appartement, et on est retourné chez lui après avoir vendu l'appartement, quand on avait acheté notre maison en transition. Donc ça a été un peu notre refuge à ce moment-là, dans cette transition entre deux vies, entre deux mondes, si je puis dire.
Et alors, à quel moment vous comprenez, ou on vous explique qu'il va y avoir du judiciaire dans toute cette histoire?
Alors, moi, je le comprends quand on a les résultats de l'autopsie, parce que je me rends bien compte que c'est un décès qui aurait pu être évité. Et puis, on a été reçu par la capitaine de police quelques temps après, qui nous a expliqué que, en fait, l'assistante maternelle allait être placée en garde à vue, et suite à la garde à vue, possiblement elle pouvait être mise en examen. Donc c'est vrai que c'est des termes moi que j'avais toujours entendu à la télé, dans des films, dans des séries. Donc c'est encore une fois, c'est du lourd dans du lourd dans du lourd. Et donc nous on s'est porté partie civile, parce qu'en fait, suite à la garde à vue, elle a bien été placée elle a bien été mise en examen, pardon. Et donc nous, on a été partie civile, puisque c'est le parquet de Nanterre qui a pris cette décision. Donc entre guillemets, on n'a pas eu à porter plainte, on n'a pas porté plainte. C'est vraiment le parquet qui a pris cette décision. Et donc nous, on a été et on est toujours partie civile avec nos familles, notamment. Et elle nous a expliqué aussi qu'en tant que partie civile, il fallait prendre un avocat. Donc on a dû trouver un avocat également. Et là, c'est effectivement le monde judiciaire s'enclenche. Donc, à la fois, des fois, entre guillemets, ça aide, parce que quand il y a des nouvelles et que ça avance, ça nous redonne de l'élan. Et puis, nous, on a toujours dit qu'on voulait justice pour Léo, s'il y avait besoin de donner justice, parce que nous, à la base, on s'est dit, on est personne, en fait, pour juger quoi que ce soit. Moi, le monde judiciaire, c'est pas du tout mon monde, donc on s'était toujours dit, on va se ranger du côté de la vie du parquet, chose qu'on a fait. Et c'est vrai que quand ça s'est enclenché, ça nous faisait à la fois du bien et puis à la fois du mal, parce qu'il y a des périodes où il se passe rien du tout. Il y a des périodes où on a un peu des fétistes, on se dit il y aura une issue incertaine, et puis on alterne avec des périodes où il se passe des choses, où on a entre guillemets des bonnes nouvelles dans ces horribles nouvelles. Et en fait, nous, on s'est toujours dit qu'on irait jusqu'au bout du bout du bout de toutes les procédures possibles pour rendre justice à Léo, et que la procédure en elle-même lui rendait justice, peu importe l'issue. Et ça a été, et c'est toujours un peu notre leitmotiv, quoi.
Parce que là, c'est toujours en cours, alors.
Ouais, c'est toujours en cours. C'est long.
Depuis combien de temps?
Depuis 2018. Donc c'est long, mais effectivement les conditions sanitaires rallongent encore plus la procédure juridique. Mais je sais pas du tout quand ça va se terminer, comment ça va se terminer. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai un peu trouvé mon juste milieu dans tout ça, et je me dis vraiment que la procédure en elle-même lui rend justice, qu'à partir du moment déjà où il y a eu une garde à vue, ça veut dire qu'il y a la capitaine de police qui a creusé tout ça, qui a vu qu'il y avait eu un souci quelque part, et puis qui avait matière à rendre justice à Léo. Et ça, c'est tout ce qui compte pour nous, c'est lui rendre justice, c'est lui rendre hommage, lui rendre justice.
Est-ce que tu l'as croisé, l'assistante maternelle, depuis toute cette histoire, depuis
le... Alors, je l'ai croisé une fois, mais c'était parce que on habitait toujours dans la même ville jusqu'à notre déménagement, donc je l'ai croisé. J'étais dans un magasin, je faisais une course, et je l'ai vue devant la vitrine. Donc je pense que j'ai abandonné tout ce que j'étais en train de faire, j'ai fait une crise d'angoisse, et je me suis cachée, parce que je voulais pas qu'elle me voie. Et puis, de toute façon, on n'avait pas le droit d'échanger, puisque à partir du moment où il y a une procédure judiciaire comme ça, les deux parties ne peuvent pas échanger. Et donc, je voulais pas la croiser parce que je voulais pas la croiser. Et je voulais pas la croiser aussi par rapport à la justice. Et donc là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à Charles, il faut vraiment qu'on déménage. Absolument. Je me vois absolument pas être dans une ville où je peux la croiser au coin de la rue, à la boulangerie, en faisant mes courses, c'est hors de question. Moi, je vais déjà qu'on vit plus, mais alors là, on vivra plus jamais, quoi. Donc, je crois que le lendemain, on a appelé l'agent immobilier pour estimer notre appartement.
D'accord. Et alors, qui est-ce qui te parle justement de la mort inattendue du nourrisson, qui t'explique tous ces procédés de couchage? C'est vrai qu'on est un peu perdu dans la manière dont il faut coucher le bébé, puisque ça change.
Ça a changé. Ça change plus depuis les années 90 où il y a eu les premières et seules campagnes de prévention en préconisant de coucher bébé sur le dos. Donc c'est vrai que ça a diminué de près de 75% des décès. Donc c'est vrai que la position y est pour beaucoup beaucoup. Et moi, donc j'avais quand même connaissance de pas mal de choses. Des fois un peu inné, j'ai envie de dire. C'est vrai que, comme je l'explique dans mon livre, la respiration, j'ai toujours eu un peu ce réflexe de dégager tout ce qu'il y avait autour de bébé, parce que justement, je me disais, un bébé, il est tout petit, et puis s'il y a quelque chose devant sa bouche, il n'aura pas forcément le réflexe de l'enlever. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'après le décès de Léo, moi j'ai beaucoup, Charles aussi, mais moi j'ai beaucoup questionné les médecins du service, parce qu'on était dans un service justement dédié à ça, à la mort inattendue du nourrisson, ce qu'on appelle un centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Il y en a plusieurs en France, et c'est là où Léo a été admis, et c'est là où on envoie les bébés qui sont décédés de cause inexpliqué sur l'instant, qui va s'expliquer dans 80% des cas, puisque la mort subite en tant que telle ne représente que 20% des cas. Enfin, je dis que, mais c'est déjà énorme. Mais donc 80% des cas sont expliqués. Et donc moi, suite à l'autopsie, j'ai posé beaucoup de questions. C'est là où j'ai compris la différence entre inexpliqué et subite. Et puis inattendu, pardon, et subite. Et aussi parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, je voulais vraiment avoir toutes les données à jour pour donner des informations factuelles et scientifiques, et pas me lancer dans des théories complètement fausses, parce que justement dans la prévention, faut donner les informations concrètes et factuelles. Et donc quand j'ai écrit mon livre, je me suis renseignée par moi-même, et j'ai fait valider toutes mes informations par une pédiatre qui travaille, qui est dans l'association dans laquelle je suis aussi, Naître et Vivre, et qui avait été la référente du service où on avait été admis avec Léo. Donc j'ai fait valider toutes ces informations, et puis c'est là où aussi j'ai pu en apprendre d'autres, notamment les chiffres que je t'ai cités.
D'accord. Et alors, comment on continue à vivre, justement, c'était la question que tu te posais toi, dans l'ambulance.
C'est ce que je dis à chaque fois, c'est que le lendemain, en fait, moi, je me suis posé la question aussi beaucoup le lendemain. Je me suis réveillée parce que j'avais réussi à dormir quelques heures absolument en m'effondrant de fatigue. Et en fait, en réveillant, je me suis dit, c'est soit je sors du lit et je me lève aujourd'hui, soit j'en sors jamais, en fait. Et c'était vraiment le choix, est-ce que je continue de vivre, quoi. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est ça, est-ce que je continue de vivre ou est-ce que je me laisse aller? Et je pense que j'ai... Enfin voilà, je dis pas que je suis plus forte que quelqu'un d'autre, absolument pas. Je pense qu'on c'est de la survie aussi. Enfin c'est dans un premier temps, c'est pas est-ce que je vais vivre, c'est déjà est-ce que je vais survivre. Et là, je me suis lancée dans cette survie parce que je me suis dit je le dois à Léo. Si moi aussi, je disparais, déjà Charlie va être tout seul. Et puis ça va être encore plus compliqué pour lui. Puis il venait de perdre son père. Enfin c'était quand même des moments qui s'enchaînaient très durs. Et je voulais vivre donc pour Charles, pour le fait qu'on soit toujours une famille. Je me suis dit aussi que j'étais toujours la maman de Léo et que en fait personne ne pouvait l'enlever, quoi, que même la mort pouvait pas me retirer ça, et que je sais pas comment j'allais le faire, mais que je voulais prôner, crier haut et fort que j'étais la maman de Léo et que il était plus là, mais que moi j'étais là pour le faire vivre, et avec Charles aussi on était là pour le faire vivre. Et bon, bah bien sûr on se dit ça, ça nous porte pas tout H24, hein. Il y a bien sûr des moments de rechute assez forts. Mais en tout cas, ce matin-là, ça m'a fait me lever. J'avais même un rendez-vous chez le médecin que j'avais annulé parce que je m'étais dit, chez le médecin, ça va être une journée encore horrible. Et en fait, je me suis dit non, ce qu'on a, on a promis à Léo, en fait, on lui a fait cette promesse qu'on était à son chevet, qu'on allait continuer de vivre. Donc, je me suis dit, je vais aller chez le médecin parce que il faut prendre soin de soi pour continuer de vivre. Et donc, je suis allée chez le médecin et on a, entre guillemets, réussi à survivre cette journée et toutes les autres. Et voilà, c'est vraiment l'envie de survivre et l'envie de vivre pour lui, mais aussi pour nous, pour notre famille et pour tout ce que la vie nous réserve, qui m'a porté, qui me porte encore aujourd'hui, bien sûr. Son petit frère et qui nous aide aussi énormément, mais voilà, je pense que on a choisi la vie ce jour-là.
Et justement, l'arrivée du petit frère, alors est-ce que ça a été une grosse réflexion, au bout de combien de temps, comment ça s'est passé pour reconstruire, enfin pour continuer de construire la famille?
Alors c'est vrai que nous déjà de base on savait qu'on voulait plusieurs enfants. On a eu dès qu'on a perdu Léo, c'est vrai que on lui a énormément parlé quand on était à son chevet. Il était déjà plus là, mais le rôle de parent continue, comme je te disais. Donc on lui a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'on lui répétait en boucle qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'on allait continuer de vivre, qu'on allait vivre pour lui, et qu'il aurait des petits frères et des petites sœurs. Et voilà, comme tout parent, c'est important de tenir les promesses pour ses enfants. Rapidement, on a voulu un peu se remettre dedans, parce que je pense que c'est le réflexe d'énormément de parents endeuillés, c'est que c'est pas qu'on a envie de remplacer l'enfant qu'on a perdu, pas du tout, c'est qu'on a envie de, comme je te disais, de choisir la vie et de perpétrer ce rôle de parent qu'on a adoré et d'agrandir la famille et de faire de notre bébé disparu un grand frère ou une grande sœur, de donner ce rôle, de donner un autre rôle qu'un bébé décédé, en fait. Donc on s'est rapidement mis dedans, sauf que nous c'était la PMA, normalement, donc ça dépendait pas que de nous. Et c'est vrai que d'un point de vue entre guillemets psychologique, enfin le service psychologique de la PMA et notre psychologue qui nous suivait, au bout d'un moment voilà, nous ont un peu stoppé dans notre élan pour nous laisser vivre cette première année qui est pleine de toutes les premières fois sans son bébé. Donc dans un premier temps, ça nous a un peu entre guillemets vexé, parce que on s'était dit si on arrivait à faire des bébés comme tout le monde, on aurait un peu fait ce qu'on voulait. Et puis d'un côté, en fait, personnellement, en tout cas pour mon cas à moi, pour notre cas à nous, ça a été très important en fait de vivre cette première année sans grossesse, parce que toutes les premières fois sont absolument horribles à vivre. Et c'est vrai que moi personnellement, je sais pas comment j'aurais pu vivre ça enceinte. Pour le coup, quand je suis tombée enceinte de Loane, c'était un an et demi après le décès de Léo, donc j'avais ce recul-là. Mais franchement, tout n'est pas simple. Déjà, de manière générale, dans une grossesse, c'est pas forcément idyllique et rose tout le temps. Mais là, c'est vrai que la grossesse d'après, le bébé d'après, je me suis retrouvée vraiment dans des situations très sombres, très dures, très culpabilisantes. Et je pense que ça sera arrivé l'année qui a suivi le décès de Léo, ça aurait été encore plus dur. Donc voilà, avec du recul, je pense que le corps psychologique a bien fait de nous freiner. Et puis après, comme on devait se marier, on s'est remis dans le projet mariage. Et Et moi, j'ai refusé en fait d'être enceinte ou d'être jeune maman à mon mariage parce que ça m'aurait stressé. Enfin voilà, ça m'aurait stressé de vivre ces deux choses en même temps ou de confier mon tout petit bébé juste le soir de mon mariage. On n'aurait pas profité. Donc on s'est dit bon, on va décaler tout ça. C'est bien aussi de prendre du temps pour nous. On a déménagé. Moi, j'ai quitté mon travail. Charles a changé de travail. On a fait des travaux dans notre maison. On a organisé ce mariage. Moi, j'ai pris du temps pour moi parce que j'ai réalisé en fait que j'en avais jamais pris et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, on s'est marié et juste après, je suis tombée enceinte et pour le coup, naturellement. Donc voilà, la vie fait ce qu'elle veut.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse?
Eh bien, les trois premiers mois, alors c'est pas que pour le coup cette fois-ci j'étais pas en apnée, mais j'étais un peu au fond du seau, si je puis dire, parce que déjà j'ai été hyper malade, donc ça aide pas à avoir le moral vraiment à fond. Donc j'étais malade jour et nuit pendant quasiment trois mois et demi. Et en fait, donc ça me fatiguait beaucoup, et c'est vrai que moi là. Le sommeil, tout ce qui est sommeil, fatigue, c'est vraiment c'est mon talon d'Achille. Surtout depuis le décès de Léo. Enfin, c'est vrai que je dors bien, la journée se passe bien, je dors mal, je peux rapidement voir les choses négativement, quoi. Et donc là, c'est sûr que pendant trois mois, j'étais un peu dedans parce que forcément, je mangeais pas ou je mangeais pas bien et puis j'étais malade donc et puis je culpabilisais beaucoup parce que je me disais je suis enceinte mais qu'est-ce que Léo il va en penser et puis après je me disais mais je suis pas du tout en train de m'approprier ce début de grossesse enfin donc voilà je passais par toutes ces par toutes ces pensées, ouais, pas forcément réjouissantes. Et puis, je m'en voulais, ce que je me disais, mais la grossesse d'après, je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement désiré, j'avais tellement hâte. Alors que là je vois tout en noir. Donc, c'est dur aussi de le dire à voix haute, parce que effectivement, les gens, dès qu'on leur disait qu'on leur annonçait ma grossesse, tout le monde était, comme chaque annonce de grossesse, hyper content pour nous. Et entre guillemets, d'autant plus après la perte de Léo. Et puis, moi, je me noyais un peu dans tout ça, quoi. Donc, j'ai repris mon suivi psychologique avec ma psy, que j'aime beaucoup et avec qui je suis toujours en contact. Et c'est la psychologue qui nous a accueillis le jour du décès de Léo. Donc, c'est symbolique aussi pour moi. Et donc, on a repris contact. On a fait des séances par téléphone et elle m'expliquait, vous réagissez aussi comme toute maman de plusieurs enfants. La première fois la fois d'après son aîné, on se demande est-ce qu'on peut aimer autant, est-ce qu'on peut être maman de plusieurs enfants, est-ce qu'il y aura pas de préférence, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit malgré le deuil, en fait, je suis une maman normale, si je puis dire. Je suis en train de faire de la place et de multiplier mon cœur pour mon deuxième bébé, donc. Et puis quand je suis arrivée bien dans le deuxième trimestre et que j'étais plus du tout malade, c'est sûr que l'humeur elle a suivi aussi, quoi. J'ai été tout le reste de ma grossesse, même si je traînais un peu de la patte, j'ai pas mal de symptômes, mais c'est le jeu, hein, de toute grossesse, ça peut arriver. Mais au final, je me suis vraiment transformée, j'ai été hyper épanouie. J'ai vraiment aussi adoré cette grossesse comme celle de Léo, ça s'est bien passé, pas toujours évident d'être enceinte en plein confinement et d'accoucher en plein confinement, mais bon, ça a été le cas de beaucoup de mamans, de beaucoup de parents. Et au final, aujourd'hui, ça nous a créé des moments magiques avec Charles, donc voilà, ça a été une grossesse, on va dire, pas en demi-teinte, j'aime pas dire ça, mais ça a voilà, ça a commencé avec des couleurs sombres et ça a vraiment fini avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Et comment s'est passée la rencontre alors?
Je pense que tout le reste de ma grossesse, je m'étais dit, il y a un moment, je vais craquer, je sais pas quand il va arriver, mais je vais craquer. Et en fait, j'ai craqué quand je suis arrivée à la maternité, parce que donc c'était quelques jours avant le déconfinement. Donc Charles n'a pas été autorisé à rentrer dans la maternité déjà avec moi. Donc j'y suis allée parce que j'avais rompu partiellement la poche des os. Donc ils me l'ont confirmé. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, on doit rester à la maternité. On n'a plus le droit d'en sortir. Donc j'ai dû dire au revoir à Charles sur un parking avec ma maman qui était venue nous accompagner. Donc là, je l'ai vraiment vécu, mais comme dans un film, c'était déchirant, je pleurais, je voulais pas le quitter. Et en fait, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis retrouvée toute seule dans cette chambre et là, je me suis effondrée. Et je me rappelle, je serrais mon gros ventre dans mes bras. C'était tellement gros que je pouvais le faire. Et en fait, voilà, là, j'avais déjà expliqué à Loane ce qui s'était passé pour Léo, qu'il avait un grand frère, etc. Mais là, j'avais à cœur de lui réexpliquer tout ça, de lui dire que j'étais désolée de pleurer, mais que j'en avais besoin, que ça serait pas toujours simple, mais que ça se rangerait pas à l'amour qu'on a pour lui, qu'on a pour Léo, et qu'on allait être une putain de famille. Et ça m'a fait du bien. Et puis voilà, après, les contractions sont vraiment déclenchées dans la nuit. Charles a pu nous rejoindre après la pause de la péridurale. Vraiment une équipe qui nous a entourés géniale, qui connaissait notre histoire via l'étoile Léo. Donc on a bien parlé de Léo, on a bien parlé de ce bébé qui est arrivé. Charles est arrivé à temps, pareil, on a rigolé, on a mis de la musique, on a même pu mettre de la musique pendant l'accouchement. Donc Loane, il est né au son des musiques préférées de ses parents. C'était vraiment en mode cocooning pour le coup, parce qu'il y avait que la sage-femme et l'auxiliaire de puériculture. Il est sorti hyper vite. Je me suis un peu étouffée sous mon masque, mais au bout d'un moment, j'ai eu le droit de l'enlever. Et puis, je l'ai pris, et exactement comme Léo, bah, je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai laissé ce privilège, entre guillemets, à Charles. Parce que je me dis, quand voilà, on est enceinte, nous, on a le privilège de faire ce lien avec le bébé pendant 9 mois. Et donc, voilà, moi, j'aime bien montrer mes bébés au papa qui a pas porté le bébé, en tout cas pendant ces 9 mois. Et je me rappelle, je pleurais, je riais en même temps, et je lui disais « Ah, mais au fait, il est quand même un peu beau ou pas ?» Enfin, je sais pas, j'étais un peu sous le coup de la péridurale et toutes les émotions dans tous les sens. Et parce qu'en fait, enfin, voilà, je m'en foutais de comment il était là, et c'était le principal, quoi.
Et alors, le retour à la maison avec ce petit bout de chou?
Eh bien, retour à la maison, très bien. Encore une fois, on s'est senti tout de suite très bien dans notre chez-nous, avec notre bébé, avec notre étoile aussi. Ce qui a été dur, c'était vraiment la crise sanitaire, quoi. Parce que moi, pour le coup, ça a vraiment... autant enceinte, j'étais sereine, j'avais pas peur de le perdre enceinte, parce que bah, nous, notre drame, il arrivait après. Donc voilà, moi, c'est l'après qui me faisait peur. Ce qui a vraiment été délicat aussi, c'est que je ne savais absolument pas comment gérer ce Covid avec mon bébé. Enfin, quand il était dans mon ventre, je m'étais dit, bah, moi, je fais attention. Et bah, donc, tout ira bien vu que mon bébé, il est dans moi, quoi. Mais, une fois arrivé chez moi, ça a vraiment été une source d'angoisse et un gros point d'interrogation, parce qu'à l'époque, on savait pas trop. Il est né en mai. Et on avait un peu des informations dans tous les sens par rapport au bébé, par rapport aux enfants, par rapport au Covid. Et donc nous, ça a été zéro risque, parce que on a que trop bien, que trop mal, excusez-moi, que trop mal vécu. Il suffit d'une fois, donc nous, c'était hors de question de prendre un quelconque risque par rapport à Loane, et puis aussi bah, par rapport à nous, parce qu'il faut bien quand même s'en occuper, et puis bon, bah, quand même par rapport à nos parents, à nos proches. Donc résultat, les premières fois où mes parents... Et mon frère cadet ont vu Loane, c'était à travers la vitre de sa chambre, parce que on n'osait même pas faire entrer les gens chez nous, quoi. On savait pas quoi faire. Donc heureusement, les informations ont été données et certifiées dans les mois qui ont suivi. Donc on a pu voir les gens, on a accepté quand même les gens chez nous. Heureusement, c'était l'été, on était beaucoup dehors, où on était sûr que niveau transmission, c'était quand même plus safe. Mais c'est vrai que à la fois ce concon a été merveilleux, parce qu'on était vraiment que tous les trois à la maternité, que tous les trois chez nous, donc c'est des moments absolument magiques, inoubliables, et avec juste ce petit pincement que bon bah voilà, les premières fois avec nos proches n'ont pas été forcément celles qu'on aurait imaginées, mais je pense qu'on est plein dans ce cas-là, et on doit prendre notre mal en patience.
Est-ce que tu as eu des peurs sur le coucher, justement, au moment des couchers pour Loane?
Alors, bizarrement, les 3 premiers mois, non. Les 3 premiers mois, j'ai réussi à, entre guillemets, dormir. J'allaitais, donc c'était pas non plus des grandes, grandes nuits. Mais j'arrivais à dormir, parce que déjà... je sais que ça arrive pas forcément les drames liés à la MSN ou la mine le premier mois. Et puis parce que chez nous, les conditions de couchage, elles sont absolument respectées de A à Z, que ça soit moi ou Charles. Donc j'étais rassurée de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand il a commencé à bouger, vers ses fin de 3 mois. Là, il y a un peu tout qui m'est revenu et là, on a commencé à stresser. Donc, on a investi dans un système de détection de la nuit. C'est vrai que j'étais pas spécialement pour. On n'a pas voulu l'acheter tout de suite parce que je m'étais dit, on va voir comment ça va se passer, notre quotidien, surtout nos nuits avec Loan après le décès de Léo. Et puis c'est vrai que voilà, il a commencé à bouger, je n'en dormais plus parce qu'il se mettait sur le ventre. Et que même si je sais qu'un bébé qui se met de lui-même sur le ventre a la force, la tonicité de se bouger s'il y a un souci et que petit à petit, de toute façon, il sait se remettre dans l'autre sens, bah moi, c'était purement psychologique, en fait. Le voir sur le ventre, la première fois que je me suis réveillée, parce que dans mon sommeil, j'ai entendu que le bruit, le mouvement qu'il faisait était un bruit différent des autres nuits. J'ai ouvert les yeux, je l'ai vu sur le ventre. Psychologiquement, ça a été très dur. Je me suis mise à pleurer. J'ai réveillé Charles et le lendemain, effectivement, on a acheté ce matériel. J'étais pas forcément pour, mais je sais qu'il peut sonner un peu de temps en temps sans forcément de raison et ça arrivait si le bébé est pas forcément dessus. Donc c'est pas évident aussi quand il sonne sans raison. Mais bref, en tout cas, j'en ai eu besoin. À ce moment-là, et ça m'a permis d'être un peu plus détendue. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il a grandi et il a eu la motricité pour se dégager un peu dans tous les sens. Enfin, comme tout bébé, il dort dans des positions absolument improbables et vraiment dans le coin du lit. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce petit passage avec la motricité nous a un peu remis dedans, on le savait. Mais voilà, on a avancé.
Et alors, tu disais que vous lui en parliez déjà in utero. Comment vous avez prévu de raconter ça au fil du temps à Loan ?
Eh bien, je pense qu'on en parle pas forcément. Enfin, en tout cas, on lui raconte pas l'histoire de A à Z de tous les jours. Mais Léo, il est tellement intégré dans notre vie que ça peut nous arriver de dire, bah, comme ton grand frère, bah, Léo, ton frère, etc. Donc, je pense que il va vite comprendre rapidement qu'il a un grand frère, et on fera aussi selon ses questions à lui, selon sa compréhension à lui, selon ses questions à lui. Moi, je sais qu'avec Charles, on est beaucoup dans la communication. Effectivement, déjà in utero, on a beaucoup parlé à nos fils. Loan, quand il était dans mon ventre, j'avais commencé à lui lire quelques chapitres de mon livre. Je m'étais dit, bon, ça peut peut-être déjà être un petit commencement. Et puis après, bah, maintenant qu'il est avec nous, qu'il est dans nos bras, je pense qu'on, ouais, on ira vraiment à son rythme aussi à lui et selon ses questions. Mais en tout cas, ça va pas être évident, c'est sûr. Déjà, expliquer la mort à un enfant, c'est pas évident. Après, on sait à quel point les enfants, ils sont géniaux, quoi. Ils ont une compréhension, ils ont des mots qui sont absolument formidables et des fois encore mieux que des adultes. Et pour l'avoir vécu avec mes neveux et mes nièces, en parlant de Léo, c'est vrai que des fois on a des réactions qui nous font un bien fou parce qu'ils comprennent, et puis ils ont leurs mots à eux. Alors des fois c'est un peu brut, mais c'est des mots d'enfant et je pense qu'on peut leur faire confiance et Loan, on lui fera confiance et on ira selon son rythme. Ouais.
Et alors, tu disais que tu avais écrit, écrit un livre. Est-ce que tu as un combat aujourd'hui par rapport à la mort inattendue du nourrisson ? Est-ce que tu fais en sorte que le message passe sur tout ça ?
Alors, effectivement, l'étoile Léo, je l'ai créée pour faire vivre Léo, pour parler du deuil périnatal, du deuil d'un enfant, parce qu'on peut se retrouver vraiment seul, et heureusement qu'il y a une communauté sur les réseaux sociaux qui fait un bien fou, et aussi pour la prévention. C'est vrai que tout de suite on a dit avec Charles, mais mon Dieu, enfin, faut plus que ça se produise, c'est pas possible, en fait. En tout cas, une mort inattendue, que ça puisse arriver, et c'est vrai que moi je dis toujours, enfin, ça, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec moi ou ça peut vexer. C'est pas du tout mon but. Mais franchement, les règles de couchage sécuritaire, entre guillemets, c'est hyper simple. Et moi, j'ai vraiment envie de les diffuser au plus de monde possible et de la manière la plus simple qui soit, parce que c'est pas compliqué, entre guillemets. Après, bien évidemment, il y a des cas où c'est pas simple de les mettre en place parce que il y a des bébés qui dorment que sur le ventre en sortant de la maternité, il y a des bébés qui ont des reflux, etc. là, ça rentre vraiment dans le médical, et c'est pas mon rôle, c'est pas mes compétences, mais pour vraiment les règles en elles-mêmes, oui, c'est mon combat de les diffuser, et coûte que coûte, j'ai envie de dire, même si des fois, bah, on va se prendre des réflexions, les gens sont pas forcément d'accord, les gens vont nous contredire ou vont remettre en doute nos chiffres, etc. Mais moi, l'important, c'est de diffuser les informations et d'éviter le plus possible des autres drames, en tout cas des drames qui sont vraiment liés aux conditions de couchage. Je parle pas de tout le reste, moi je parle du sujet que, entre guillemets, malheureusement, je maîtrise. Et ouais, c'est notre combat de diffuser. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit l'étoile Léo. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, parce qu'encore une fois, je voulais raconter l'histoire de Léo et lui rendre hommage et continuer à le faire vivre, mais aussi protéger d'autres bébés. Et dans ma reconversion professionnelle, je l'intègre aussi, puisque je fais l'accompagnement postnatal. Et j'ai intégré un peu, entre guillemets, ce module prévention, si les parents le souhaitent, pour préparer l'arrivée de bébé en toute sécurité, parce que qu'on ait connu un drame ou pas, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir de la maternité et à avoir cette angoisse de la respiration, cette angoisse de la nuit. Et pour moi, c'est primordial de partager mes connaissances. On les entend ou pas, mais en tout cas, si on a besoin d'informations ou de travailler là-dessus, bah je suis là. Et pour moi, c'est plus qu'un combat, c'est comme un devoir, en fait, en tant que maman endeuillée et en tant que maman qui a perdu son fils.
Alors, quelques règles, justement, de couchage que tu pourrais donner, là?
Alors, les règles de couchage sécuritaires, dans un premier temps, on couche toujours et systématiquement bébé sur le dos. Comme je te disais, depuis que les premières et dernières campagnes de prévention ont eu lieu par rapport au couchage sur le dos, les décès ont baissé de plus de 75%, donc c'est absolument pas négligeable. Bébé, il dort dans son lit, dans son berceau. Il peut être à côté de papa et maman, ou des mamans, ou des papas, ou de ses parents, mais dans son lit à lui, avec son matelas qui est à sa taille, adapté à son poids, dans sa gigoteuse, adaptée encore une fois à sa taille et à son poids. Il n'y a rien autour de lui, parce que bébé, il a besoin de rien. En fait, c'est vrai que quand on met généralement, je parle vraiment en généralité, parce qu'il y a toujours des cas spécifiques avec des pathologies ou des choses spécifiques au bébé. Mais en général, c'est nous qui allons mettre, par exemple, un doudou à notre bébé. Donc forcément, il a un peu du mal à s'en passer. Moi, ce que je conseille, c'est dès qu'un bébé il est né, d'essayer de pas lui mettre de doudou tout de suite pour qu'il s'habitue vraiment à dormir dans un environnement dégagé de tout et qu'il n'ait pas besoin et donc il ne réclame pas pendant la nuit un doudou ou une couverture, etc. Donc rien autour de lui, pas de tour de lit, pas de couette, pas de couverture, pas de peluche. Et on veille aussi à la température de la pièce, puisque comme on ne couvre pas bébé à part avec son pyjama ou sa gigoteuse, on veille à la température de la pièce, et aussi parce que c'est important de pas surchauffer une pièce. Ça peut être aussi un des facteurs qui privilégie malheureusement une mort inattendue ou une mort subite. Donc on préconise entre 18 et 20 degrés, mais bien évidemment il y a des cas spécifiques selon la région, selon les périodes de l'année. Donc dans ces cas-là, on va jouer sur la tenue de bébé, comment l'habiller. Il y a beaucoup de tableaux qu'on peut retrouver sur internet ou sur les sites des hôpitaux, d'associations où on sait comment habiller bébé. On veille à ce qu'il ne soit pas dans un environnement de tabagisme passif, que ça soit pendant la grossesse ou bien évidemment une fois qu'il est né. Et voilà.
Et alors toi, bientôt 3 ans plus tard, comment tu te sens, comment tu avances chaque jour?
Eh bien, presque 3 ans, j'ai l'impression que j'ai passé encore, entre guillemets, un cap, si je puis dire. Effectivement, la naissance de Loan a forcément beaucoup aidé dans ce sens-là, c'est sûr. On a la vie qui est revenue, si je peux dire, chez nous. Mais aussi moi-même, en tant que maman endeuillée, je pense que j'ai passé un cap. On a vraiment réussi à intégrer Léo à tellement de niveaux, avec tellement de gens, que j'ai l'impression qu'il existe dans le cœur de beaucoup de personnes. Et c'était aussi mon combat, c'était de le faire connaître, de faire dire son prénom un nombre incalculable de fois. Et je pense que ça aussi, ce combat, on l'a bien mené, puisque on connaît l'histoire de Léo. Et moi, ça me fait un bien fou. Enfin, dès que quelqu'un me parle de Léo, quelqu'un m'écrit pour Léo, quelqu'un m'envoie une photo pour Léo. Enfin, voilà, ça me fait toujours du bien, ça me fait toujours chaud au cœur, ça m'émeut toujours autant. Et en fait, ce cap, je pense que je l'ai passé parce que je pense que je suis arrivée à être dans un moment de vie du deuil, parce que pour moi, le deuil, c'est toute une vie. J'ai pas envie de dire qu'on fait son deuil, en tout cas pas pour un enfant. Donc le deuil, c'est toute une vie, mais je pense que je suis vraiment dans une étape, pas que j'ai accepté, parce qu'on n'accepte jamais la mort de son enfant, mais en tout cas, j'ai accepté ma vie d'après. La vie d'après le drame, la vie d'après la perte de mon fils aîné. Il y a des périodes où c'est pas évident, et je sais que les contre-coups, ça arrive, et ça arrive souvent quand on s'y attend pas. Mais en tout cas, je me sens bien, entre guillemets, et au clair. Il n'y a plus de culpabilité entre Léo et Loane, entre Loane et Léo. Chacun est à sa place, et chacun a tout l'amour qu'il doit avoir. Et je suis contente aussi d'avoir pu et de maintenir ce projet de reconversion professionnelle qui émane certes du deuil, mais surtout de la maternité. Et ça, j'ai vraiment envie aussi de le dire et de faire passer ce message que c'est vraiment la maternité bien avant le deuil qui donne des fois ces envies, ces besoins de changement dans une vie. Et que je suis la maman de Léo avant d'être la maman endeuillée. Pour moi, c'est vraiment le cap que j'ai passé récemment. C'est que je suis vraiment sa maman avant d'être sa maman endeuillée.
Est-ce que tu as peur parfois de plus en parler autant? Tu sais, petit à petit, quand on rentre, quand on justement on avance dans la vie, on va forcément, par la force des choses, le prénom Léo viendra peut-être de moins en moins souvent. Est-ce que toi, c'est quelque chose aujourd'hui qui te fait peur?
Alors oui, j'ai eu en fin d'année dernière une période un peu comme ça où je me disais, enfin j'étais tellement à fond dans la vie avec Loane, parce que je m'en occupe tous les jours en ce moment, enfin en tout cas depuis sa naissance. Et c'est vrai que voilà, quand entre guillemets on a la tête dedans, des fois je me disais, mais est-ce que je parle un peu moins de Léo, je fais moins de choses pour lui sur les réseaux, je poste moins de choses, les gens ils vont se dire que l'étoile Léo existe plus, etc. Et c'est en réalisant que en fait non, que ça existait toujours, que je recevais toujours des messages, que mes vidéos tournaient toujours, que ne serait-ce que d'avoir écrit un livre il existera toujours. Et puis c'est ça aussi qui m'a aidé à passer ce cap, c'est de me rendre compte que même les périodes où je suis un peu moins présente, parce que j'ai ma vie avec Loane aussi qui continue, et qu'il y a quand même des gens qui sont toujours, que ça soit dans notre bulle personnelle ou via les réseaux ou la vie extérieure, si je puis dire, en fait on continue de parler de Léo, on continue de dire son prénom. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment confortée dans l'idée que je me suis autorisée à me dégager vraiment le temps nécessaire pour créer mon entreprise, pour faire les formations que j'ai envie de faire et pour faire la reconversion professionnelle que je veux faire à 100%. Et je me suis vraiment donné cette possibilité en réalisant que Léo, comme je le dis toujours, il faut que Léo il soit partout, que tout le monde entende parler de Léo. Et là, je réalise que c'est le cas. Et j'espère que ça durera, et je ferai en sorte que ça durera. Et je suis bien entourée, en tout cas, pour m'aider là-dedans.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
Tout. Enfin, je pense que je suis toujours moi, mais je suis une version de moi que j'aime beaucoup, si je puis dire, parce que c'est absolument un rôle formidable. Enfin, moi, ça a changé ma vision de tout, de mes priorités dans la vie, du sens de la vie, de tout ça. La maternité, c'est un peu une concrétisation déjà de mon amour avec Charles, et puis de tout plein de choses. Je pense que ça m'a toujours intéressée. C'est toujours un milieu dans lequel j'ai voulu être, où je voulais en tout cas me documenter le plus possible, avoir le plus possible de connaissances, voire me lancer dedans professionnellement un jour. Et comme, enfin voilà, c'est une fois qu'on le vit, qu'on vraiment on réalise ce que c'est. Et moi, ouais, ça a transformé mon quotidien, mes objectifs, ma vision de l'avenir, mes priorités. Je pense que, je veux dire, même les jours les plus durs, pour X raisons, je regarde Loane ou je regarde une photo de Léo et je me dis, bah en fait, il y a rien de plus important que ça, quoi. Il y a rien qui peut m'atteindre parce que je les ai eux et bien sûr Charles. Donc je pense que ça, je suis toujours moi-même, mais parallèlement, ça a tout changé parce que pour moi, c'est un bouleversement mais absolument magique.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman normande ?
Une maman normande, c'est accepter que l'hiver, il fasse un peu froid et qu'il pleuve un peu, et qu'on puisse pas forcément faire des millions de balades avec son bébé. Mais en tout cas, c'est pour avoir vécu dans la région parisienne, on est ravis d'être dans notre petit cocon en Normandie avec notre jardin et notre chien. Et voilà, c'est chouette d'être une maman normande.
Quel est ton endroit kids friendly préféré en Normandie?
Alors moi j'aime beaucoup me balader autour de chez nous, vraiment dans notre petit village au bord des champs avec Loane et avec notre chien. Je pense que c'est mon endroit préféré, c'est devant le champ qui est au bout de chez nous, au bout de notre rue. Et puis on va regarder parce que c'est un grand champ, donc j'ai l'impression qu'il va un peu à l'infini, donc il rejoint un peu le ciel, donc forcément qu'il rejoint Léo. Et puis j'aime bien parce que Loane il regarde partout, on va dire bonjour aux vaches, on va dire bonjour aux agneaux. Et puis notre chien Oscar, il est comme un dingue, donc c'est mon endroit, ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors projet rien que pour moi, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du professionnel, vu que je me lance dedans vraiment là depuis le début de l'année. Donc c'est création de boîte, ça c'est fait, mais donc là je suis vraiment dans le site internet, toutes ces petites choses. Formation, je fais prochainement une formation vraiment dédiée à l'allaitement, qui me tient à cœur. Et je pense tenter le concours d'auxiliaire de puériculture dans les mois prochains. Donc ça c'est vraiment à moi. Et en famille, comme nous tous, ça dépend beaucoup de cette crise sanitaire, mais on avait un week-end qui était prévu au bord de la mer avec Loane qui a été un peu décalé, on sait pas quand, mais ça sera notre prochain truc tous les trois. C'est tellement bien au quotidien d'être ensemble que voilà, pour l'instant ça nous suffit.
Merci beaucoup Julie.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Julie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 83 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.